Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté et LSTW. Au programme, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Et je suis Charline Labonté. Bonne écoute.
Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. La pop joue avec nos désirs et nos révoltes. Mais qu'est-ce donc ce truc qui nous soulève? Réfléchissons en dansant sur du Rihanna. Je marche dans le noir, sur un petit chemin déjà emprunté par des centaines de personnes. Au loin, j'entends un vrombissement qui résonne en moi, s'ajoutant à mon stress-excitation qui fait frémir le bout de mes doigts. Je m'en vais à un rave-off, fierté, qui se déroule près du quartier Hochelaga-Maisonneuve, près du stade que je ne perdrai pas de vue cette nuit-là. Quand j'arrive sur les lieux, une foule immense m'attend, crie, jouit d'être enfin rassemblée après des mois de confinement. Rapidement, en allant rejoindre mes amis eux, qui sont à l'avant, complètement entraînés par la musique, je croise une dizaine de personnes issues de plein de sphères de ma vie, pas seulement des homos, des club kids ou des ravers, mais aussi des amis d'école, des garçons gênés, des anarchistes, des gens de HEC, qui ont eu l'info, je ne sais trop comment, des straight, des touristes torontois, des étudiants, des étudiantes en théorie critique, des gentils, des méchants probablement. Cette drôle de collectivité, je l'ai souvent décrite sans mentionner les ceux ou les celles qui m'étaient les plus éloignés. J'ai souvent insisté sur les ceux ou les celles qui, comme moi, étaient marginalisés par leur genre ou par leur orientation sexuelle, à vrai dire, dans cet espace un peu hors temps que j'aime profondément. J'aurais pu, ou dû, insister davantage sur l'amalgame de corps qui s'y trouvent, qui s'unissent en des temps difficiles, pas toujours ensemble-ensemble, mais ensemble. Oui, en groupe, en même temps. Et quand une des artistes DJ fait jouer un remix de « Bitch Better Have My Money » de Rihanna, nous chantons tous et toutes à tue-tête les paroles de ce hit que je qualifierais d'incendiaire. La chanteuse rappe pour que son comptable lui remette l'argent qu'il lui a volé et nous, collectivité queer, en marge de la ville, reprenons le discours à notre compte, hurlons ces mots à la lune. Quelques minutes après la fin de la chanson, je regarde avec intensité les yeux de Lou et je lui dis qu'on vit un moment important, qu'il faut se documenter parce que personne ne le fera et qu'il y a quelque chose d'historique dans ce rassemblement aussi hétérogène où tout le monde exprime sa particularité sans gêne. Aujourd'hui encore, il m'arrive de repenser à ce moment, plus précisément à Rihanna, qui nous a unis d'une façon que je considère comme réellement queer, c'est-à-dire telle une collectivité où l'universalisme se formule à partir de la réalité des minorités. Je vois des mécanismes qui permettent cet idéal ou cette conception politique partout dans l'œuvre musicale de Rihanna, dans son discours explicite sur la sexualité, qui est variable, ouvert aux nuances, dans son effort pour renverser les scénarios sexuels destinés aux adolescentes noires depuis le colonialisme, et dans son attitude revendicatrice qui permet de penser la rétribution à travers toutes sortes d'argent symbolique. Et en même temps, Rihanna est un produit capitaliste comme il en existe peu. Les sensibilités qu'elle convoque renforcent bien souvent l'idéologie du capital sans offrir d'avenue autre pour s'en émanciper. En examinant en détail sa proposition musicale, j'aimerais souligner combien son œuvre permet d'envisager les mécanismes intérieurs de notre système économique. Il ne s'agira donc pas de trancher si la musique de Rihanna est socialement bénéfique ou non. Elle l'est et ne l'est pas. Mais bien de l'appréhender comme un objet signifiant, complexe, dans lequel se croisent de nombreux enjeux propres au discours social d'aujourd'hui. S'il y a bien une chose que le phénomène Rihanna est apte à dévoiler, c'est le constant besoin du système capitaliste d'expliciter et d'intensifier les désirs, produisant des manques qui ont des conséquences directes sur notre conception de nous-mêmes. Seule une lecture irrévérencieuse de ces principes économiques parviendra à faire ployer le tout. Vous écoutez, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Dire ce qui doit être dit. Né le 20 février 1988 à la Barbade, de parents comptables et marchands, Robin Rihanna Fenty est remarquée dès l'enfance par des producteurs américains qui reconnaissent en elle un talent musical manifeste. Enfant star, elle assure la première partie de Gwen Stefani à l'âge de 17 ans, en 2005. Le premier album qu'elle co-compose et interprète la dépeint comme une bonne fille qui se plaît à danser sur des rythmes pop, dancehall et reggae enthousiastes. Pour rompre avec cette représentation enfantine, Rihanna revient à la charge en 2008, avec une image entièrement refaite, signant un album au titre révélateur « Good Girl, Gone Bad », où se trouve son hit le plus connu « Umbrella ». Dans cette chanson, interprétée en duo avec Jay-Z, elle chante son désir de rester amoureuse malgré le risque d'être contaminée par le succès commercial. Dans les années qui suivent la parution de ce hit emblématique, Rihanna explore le vocabulaire d'une sexualité affranchie, libérée des tabous, comme le font par ailleurs plusieurs enfants célébrités qui souhaitent mettre à jour leur image publique. Je pense à Miley Cyrus, Justin Bieber, Britney Spears, etc. Les chansons de cette ère musicale sont par le fait même marquées par un langage de la sexualité qui ne lésine pas sur les mots. Son sixième album s'intitule « Talk That Talk », c'est-à-dire « Parle ce langage », « Parle de ta sexualité sans craindre les conséquences ». J'avais tout juste 18 ans quand cet album désigné comme explicite est sorti, et j'ai avalé tout rond le projet artistique de Rihanna. Dans les métros de Montréal, je me souviens d'avoir écouté cet album en boucle, chantant dans ma tête « Suck my cockiness, lick my persuasion ». Suce mon arrogance, lèche ma persuasion, ou encore It's not even my birthday, but you wanna lick the icing off. I know you want it in the worst way. Can't wait to blow my candles out. Ce n'est même pas mon anniversaire, mais il veut lécher le glaçage. Je sais que tu le veux de la pire des façons. J'ai hâte de souffler mes bougies. Je n'ai pas été le seul à être impressionné par sa capacité à faire allusion à une sexualité affranchie sur des rythmes endiablés et dansants. Si nous sommes maintenant habitués à ce genre de discours, il faut rappeler qu'à l'époque, la musique populaire parlait moins frontalement de sexe. Les mots à caractère sexuel étaient censurés à la radio et à la télévision, ce qui ne se produit plus sur les plateformes de musique en continu. Une ligne morale était franchie avec « Talk That Talk ». Et moi, les hormones dans le tapis, ça m'obsédait ce cake sexuel. Ces mots « cockiness pussy Asian », à peine couverts, « suffocnie » parfois prononcés, cette mise en scène frontale du faire l'amour, renforcée par le rythme musical qui rappelle le sexe, intonation d'orgasme comprise. Le tout n'avait plus, comme je le croyais, à se prononcer en cachette. L'expression de la sexualité était désormais exubérante, elle passait par la répétition et par le chant impérieux « Say what you want, say what you like, say you want me to do and I got you. Dis ce que tu veux, dis ce que tu aimes, dis ce que tu veux que je fasse et je le ferai. » Qui craint que les enfants, adolescents, jeunes adultes parlent de sexualité? Nous-mêmes, apparemment. Quand nous vieillissons, cette attitude morale semble s'intégrer quelque part après l'âge adulte et orienter la compréhension de notre récit personnel si l'on se fie aux commentaires qui se trouvent sous les vidéos. YouTube, The Birthday Cake, Extended Version, Feet, Chris Brown et The Cockiness, deux des chansons les plus suggestives de Rihanna. Issa Fae, il y a 2 ans, modifié. 10-year-old me had no business singing this. Le moi de 10 ans n'avait pas d'affaire à chanter ça. 8100 mentions, j'aime, 69 commentaires. She Energy, il y a un an. Childhood Me, a song about BD cakes. Adult Me Now, oh, that kind of cake. Le moi enfant, une chanson à propos de gâteaux de fête. Le moi adulte, oh, cette sorte de gâteau. 4000 mentions, j'aime, 23 commentaires. JB Music, il y a un an. What is was is not my ass whoop when I blasted this is my room at 10 years old. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas botté des fesses quand j'écoutais cette chanson à tue-tête dans ma chambre à 10 ans? 1400 mentions j'aime, 9 commentaires. Examinons cette fiction singulière. Durant l'enfance, des fans auraient prononcé des mots plus ou moins codés, ne percevant pas leur signification cachée. Les internautes l'auraient compris une fois adultes, l'âge de la raison sexuelle, et auraient été étonnés d'avoir eu le droit d'écouter ces chansons. On voit bien s'effectuer la transmission des normes dans ce petit fragment numérique du moi enfant au moi adulte, pour reprendre les mots de Che Energy. Car ces témoignages formulés à la blague semblent bien calquer une grande grille de lecture morale propre à la société occidentale moderne, voulant que le contact entre les enfants et les discours sur la sexualité soit problématique. Problématique au point qu'on doive les en protéger. Le commentaire de JB Music transpose avec humour cette injonction à surveiller les enfants et à les punir au besoin en leur bottant les fesses. Nous considérons constamment les enfants et les adolescents, adolescentes, comme des individus sans conscience, sans sexualité. L'enfant étymologique, celui qui ne parle pas, celui qui ne dit pas ce qui doit être dit, who doesn't talk that talk, pour jouer avec le titre de Rihanna. Et en même temps, nous créons une culture qui les force à apprendre la sexualité et les interdits qui en découlent, une culture qui leur impose une certaine façon de s'exprimer et de penser. En devenant adultes, ils ou elles devront comprendre les coûts de l'explicite. L'idée, par exemple, qu'on ne parle pas de sexualité en public, qu'on garde ce langage pour les moments d'intimité. Pour les plus conservateurs et conservatrices, les discours sur la sexualité seront idéalement réduits au strict minimum. On ne parlera pas de plaisir, on n'envisagera le sexe que comme moyen de reproduction de l'espèce. Vous écoutez, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Un texte de Gabriel Cholette paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Les avertissements aux parents, ces étiquettes ajoutées sur les produits culturels pour protéger les enfants de la violence ou de la sexualité, ont pour effet d'indiquer très clairement quand un objet est du côté de l'explicite, c'est-à-dire quand il est amoral. C'est bien quand on est hétéro et qu'on a une famille, mais ce l'est moins quand on est une personne qui doit constamment faire des coming out, à qui l'on demande d'être fier et d'avouer ses préférences sexuelles. Pour le dire autrement, le présupposé que les discours sur la sexualité doivent être tus en public met en danger l'expression des communautés à qui l'on demande précisément de faire l'étalage de leurs préférences. Rapidement, ces personnes sont accusées d'être trop intenses, de vouloir choquer, alors qu'elles ne font que ce qu'on leur impose, se dévoiler comme différentes, comme homosexuelles par exemple. L'avertissement de contrôle parental n'est que la manifestation de ce présupposé social, cette idée qu'il y a un risque à trop dire. La frontière de l'explicite organise ainsi une certaine partie de la société actuelle. D'un côté, il y a ceux et celles qui doivent dire, que l'on accuse de trop dire, et de l'autre, ceux et celles qui peuvent se permettre de rester dans l'implicite et qui s'assurent que l'ordre social est respecté. Pour se convaincre que cette économie existe, on peut se remémorer l'existence du village à Montréal, à mon avis encore important, qui rend sensible cette division sociale sur le plan urbanistique. Si les personnes LGBTQ+, vivent majoritairement à l'extérieur de ce quartier, il reste que leur aire de jeu est symboliquement restreinte à cet endroit où se concentrent des entreprises de séduction, de plaisir et de sexualité. Ce quartier est bien entendu utile pour les minorités sexuelles en région, qui peuvent le voir au loin comme le phare signalant l'existence de modes de vie qui leur ressemblent, mais en milieu urbain, il marque, selon moi, une ségrégation sociale qui existe encore. Le village est cet avertissement aux parents, placardé sur tout un quartier. Ce qui est d'autant plus frappant quand on examine de près Rihanna, c'est qu'elle parvient à rejoindre la majorité de la population en jouant justement sur les frontières que tracent l'idéologie et la morale hétéronormative. On en trouve la parfaite expression dans S.I.M., une chanson de l'album Loud 2010, où les comportements sadomasochistes, choquants pour un public sage, se voient valorisés dans le discours d'une chanteuse qui prétend en être l'experte « Cause I might be bad, but I'm perfectly good at it. » Parce que je suis peut-être mauvaise, mais je suis parfaitement bonne à ça. La formule joue sur le sens positif d'être mauvais ou mauvaise, comme dans l'expression « I am a bad bitch » selon l'Urban Dictionary. « Bad » signifie « qui est sexy » et qui l'extériorise avec confiance. L'imaginaire du sadomasochisme qui est convoqué suggère que dans notre société, le rapport à la sexualité se fait dans une danse complice entre le plaisir et la douleur, la critique de soi et la joie de goûter, un système de frontières où l'hétéronormativité joue un grand rôle qui se traduit par un doute constant sur ce qu'il est permis ou non de faire. Un calcul continuel du nombre de fois où l'on a franchi la ligne et l'hésitation entre la franchir à nouveau ou rester dans le territoire du permis. Mais le succès de Rihanna n'est-il pas le symptôme d'une société qui fondamentalement est en contradiction avec ses idéologies? Je perçois, dans ces milliards d'écoutes, une célébration des limites de notre sadomasochisme collectif, un plaisir partagé de transgresser ce système qui structure nos érotismes par l'interdiction. Je vois que quelque chose craque, que la danse ne fonctionne pas et qu'elle condamne la majorité et non pas les minorités, comme on le formule actuellement. Au silence. Alors qu'au Québec, les cours d'éducation sexuelle ont longtemps été négligés, il me semble indispensable d'ouvrir le discours sur les sexualités afin de briser la hiérarchie morale qui s'en prend à tout acte qui ne mène pas à la procréation, en permettant de parler des désirs et des plaisirs sans les cristalliser, sans qu'ils fassent l'objet de coming out qui ont comme conséquence de sceller l'identité sexuelle. Pour enfin valoriser l'apprentissage de ces choses aussi complexes que sont le désir et la sexualité, sans les penser comme des séries de frontières à franchir dans le noir. Je marche dans le noir, sur un petit chemin déjà emprunté par des centaines de personnes. Vous écoutez. Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté.
Je suis Charline Labonté, un texte de Charline Labonté paru dans le magazine LSTW. Charline Labonté, quadruple médaillée olympique canadienne, Salt Lake City en 2002, Turin en 2006, Vancouver en 2010, Sochi en 2014, est membre de l'équipe olympique canadienne depuis 2000. L'athlète de renom a décidé de s'associer à deux organisations, une canadienne et une américaine, afin de publier une lettre de coming out et de donner plus de modèles féminins LGBT dans le sport nord-américain. C'est le grand jour. Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Sochi, février 2014. L'événement qui confirme la raison d'être de mes efforts. Je réalise une fois de plus que j'ai réussi à atteindre un de mes plus grands objectifs à vie, ma plus haute marche. Les installations sont parfaites, là où les yeux du monde entier se porteront sur les athlètes qui y feront leur entrée. Aucun son ni mot ne peut décrire les émotions qui m'habitent lors de la marche dans le stade. Quatre fois j'ai eu la chance de participer aux grandes cérémonies, quatre fois très différentes, tatouées en moi. Des quatre, Sochi est mon chouchou. probablement parce que je savais que c'était la dernière fois. Entrée dans ce stade immense, moi si petite mais forte, la foule, les caméras, la fierté, l'équipe canadienne au grand complet comme une grandiose vague rouge. Après 4 longues années de dévouement, pouvoir représenter son pays et le vivre avec les gens qui me sont les plus chers, qui m'ont soutenu et m'ont aidé à m'y rendre, c'est un rêve qui prend forme. Ouf! En plus, y être avec ma meilleure amie sur l'équipe de hockey, Caroline Ouellette, et surtout le vivre avec Anastasia. Anastasia Bouxy, l'athlète canadienne de patinage de vitesse sur longue piste. Anastasia, la personne que j'aime. Cette année, j'ai été comblé. En plus d'une 4e médaille olympique, j'ai rencontré l'amour de mes rêves. C'est d'ailleurs la faute de Caroline Ouellette. C'est elle qui m'a présenté Anastasia. Caroline et Anastasia se sont rencontrées à un événement organisé par Right to Play pour lequel elles sont ambassadrices. Right to Play est un organisme humanitaire international qui, avec des ambassadeurs dans le secteur des sports, favorise l'insertion de l'activité physique et du jeu pour les enfants de pays défavorisés. Comment est-ce arrivé? Dans une des rares soirées libres de nos vies actives, Caroline a eu l'idée de nous inviter au même endroit, Anastasia et moi. Une poignée de main et c'était ça, l'étincelle. En plus, étant athlètes toutes les deux, nos vies se sont structurées, emboîtées. On est nés sous la même étoile. Nous faisons la même chose, avons les mêmes ambitions, des horaires et un stress semblables à gérer. C'était parti, bien parti. Puis, comble du bonheur, à la fin décembre de cette année-là, elle obtenait son billet pour Sochi. Nous allions vivre l'expérience olympique ensemble. Propagande homosexuelle. L'envers de la médaille. Les nouvelles lois russes, dont, entre autres, celles qui sanctionnent tout acte de propagande homosexuelle. Hétéro ou gay. Malaise. Avions-nous peur? Eh oui. Étions-nous en danger? Aucune idée. L'équipe canadienne n'a toutefois pas eu l'intention de protester. Nous étions là pour une seule et unique raison, celle de compétitionner au plus haut niveau de nos capacités. Le travail derrière notre qualification avait été tellement acharné, personnellement, je ne pouvais pas laisser les distractions extérieures me séparer de mon rêve ultime. Par contre, le sentiment de ne pas être complètement libre pendant la durée des Jeux me laissait un goût amer dans la bouche. Merci la vie, Sochi 2014 s'est déroulé dans la paix et tous les athlètes ont pu se concentrer sur leurs entraînements et leurs performances. Parlant de performance pour les athlètes, les Jeux olympiques sont beaucoup plus que les résultats qui sont diffusés dans les médias. C'est le produit de toutes les années d'entraînement et d'acharnement qui nous ont permis de nous y rendre. Le climax. Pour vous donner un aperçu, ma journée type. Pratique de 2 heures. Entraînement en musculation durant 1h30. Dîner. Entraînement de sprint ou vélo de 1 heure. Une autre pratique de 2 heures, pour finir avec une session de yoga de 1 heure, 6 jours par semaine. J'ai la chance de faire partie de l'équipe canadienne depuis 12 ans et jamais je n'ai eu le sentiment de devoir me cacher. Tout le monde sait que je suis gay et jamais je ne me suis senti dénigré par rapport à mon orientation sexuelle dans mon équipe. Au contraire, c'est là où je m'y sens le mieux. Le sujet de l'homosexualité n'a absolument rien de tabou avec nous. Nous en parlons et en rions comme c'est le cas avec tous les autres sujets. Quel privilège de pouvoir évoluer dans un environnement comme celui-là qui n'a pas toujours été aussi ouvert. Médaille d'or pour l'équipe canadienne de hockey féminin. J'avais malheureusement des entraînements au moment de la compétition d'Anastasia, mais elle a pu assister à notre match de finale. Sous ses yeux, nous remportions l'or. Cette victoire, nous l'avons célébrée jusqu'au lendemain matin. Nous venions de réaliser l'impensable. qui croyait honnêtement que l'équipe avait encore des chances de gagner alors que les Américaines menaient 2-0 avec 5 minutes à faire au match? Pratiquement personne. À part les 21 filles qui portaient la feuille d'érable sur leur chandail ce soir-là et notre entraîneur Kevin Dineen, qui nous a fait confiance et par le fait même nous a donné la force nécessaire. 9 fois sur 10, une équipe en face d'un 2-0 en fin de troisième période ne remporte pas le match. Nous étions l'exception. Aujourd'hui, je me remémore cette année haute en émotions. Je suis tellement fier de mes amis, mes coéquipières, le personnel qui nous a soutenus et la grande équipe. Je suis aussi, et je pèse mes mots, fier de qui je suis et surtout d'avoir le courage de le partager avec vous aujourd'hui. Je suis médaillé olympique à 4 reprises. Je suis la fille de parents merveilleux et la sœur d'un frère extraordinaire. Je suis l'ami de gens admirables qui me soutiennent et sans qui je ne pourrais réaliser mes rêves. Je suis aussi étudiante et j'obtiendrai ma maîtrise de l'Université McGill cet automne. Je suis gay, amoureuse et fièrement authentique. C'était « Je suis Charline Labonté », un texte de Charline Labonté paru dans le magazine LSTW.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.